Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R., Kevin Raphaël.
Là, je vais être smooth aujourd'hui.
Hey, pour vrai, Fred, ça risque d'être le meilleur podcast de tous les temps. Kev n'avait plus de voix jusqu'à ce matin. Donc,
je voudrais même jusqu'à ce midi.
Il va prendre ce smooth.
Je vais prendre ce smooth.
Pour tous ceux et celles qui s'endorment pas avec notre podcast, parce que quand Kevin, il pique, ça réveille, ben là, vous allez peut-être pouvoir vous endormir avec le podcast.
Peut-être. Je vais prendre ce smooth aujourd'hui. Mais si les gens me font chier, ça se peut que je me fâche.
Mais les gens, c'est moi puis Fred.
Ben c'est ça. Je vais prendre ça smooth.
Ah, ok.
Yo.
Sans restriction.
Acheter la 8e merveille du monde.
Non!
Acheter.
Non! Asti, c'est fini. Ben non, il est encore en vente. C'est pas fini. Mais Colin, Butch Bouchard. Hey, là, c'est moi, tu vas faire fâcher.
Acheter Émile Butch Bouchard, qui est un excellent livre.
Oui, qui est aucunement controversé.
Hey,
quand tu t'en tiens aux faits, il y a personne qui réfute. Les informations qui se retrouvent dans ton livre.
Lui,
moi, je vais juste dire ça de même.
Je vais juste dire, là... Regarde, en tout cas.
Il y a des choses...
Regarde.
C'est comme si toi, tu faisais un livre.
C'est comme si je faisais un livre...
Avec tout ce que tu sais.
En mettant les noms des gens.
Oui.
Moi, j'en reviens pas. Ça fait même pas un... tu vois, là, il me fâche, là. Ça fait même pas un an. Tu travailles plus pour la compagnie, pour l'équipe.
Ouais.
Ça fait même pas un an.
Pas sûr qu'il va être invité au prochain tournoi de golf.
Puis mettons-le, ils ont fait le lancement du livre du Patnais.
Fred, ça a pris une minute.
Ils ont fait le lancement du livre du Patnais au Centre Bell.
En plus.
Avec Molson, tout le monde endosse le livre.
Sauf les joueurs.
Ben, of course, il n'y avait pas les joueurs.
Alors voilà, si vous voulez un bon livre et qui n'est pas controversé, Butch Bouchard en librairie, je vais être au Salon du Livre tout le week-end à compter d'aujourd'hui, vous écoutez ça jeudi, fait qu'à partir de ce soir, 16h30 à 18h, 19h à 20h30 au kiosque 303 de Libre Expression. Le 25 novembre, je vais être là, donc vendredi, de 14 à 15h30, 19h30 à 21h, et je vais faire un petit aparté entre 6h30 et 7h30 au kiosque d'Urtubise pour le Géant Ferré. Le 26, je vais être là de 10 à 11h30 et le 27 également dimanche de 10 à 11h30.
Répète donc le 24.
Le 24, je suis là de 16h30 à 18h et de 19 à 20h30.
Shit.
C'est jeudi, ça. C'est ce soir.
Shit.
Ou demain, ça te tente de dire qu'on est mercredi.
Non, parce que... Non, on est mercredi. Moi, je suis là de 9h à 11h, je pense.
Le matin?
Ouais.
OK.
Après ça,
je serai pas là.
Je suis là de 1 à 3.
OK. Puis tu parles dessus avec la main devant la bouche tout le long du podcast.
Je réfléchissais.
Fait que moi, je vais être là à 4h30.
Ah, c'est zut. J'essaie de revenir.
OK. Ou tu peux rester à 3 jusqu'à 4h30.
Faut que j'aille jouer au basketball.
C'est une obligation.
Oui.
Et il y a la force aussi en fin de semaine. Tes deux premiers matchs locaux. Auditorium de Verdun le 26 novembre à 14h et l'Arena Raymond-Bourque à Ville-Saint-Laurent. Dimanche à 14h, j'aurai la chance d'être l'annonceur maison. Merci beaucoup de la confiance. C'était troisième et quatrième match.
Ouais, là, il faut acheter les billets pour... Ouais.
Jouez contre...
New York Riveters, Metropolitan Riveters.
Oui.
Là, achetez vos billets, OK? Mm-hmm. Soyez là.
Verdun, ça va bien?
Verdun, on est à 1842.
Et Ville-Saint-Laurent?
On était à combien? 344 la semaine dernière?
Ouais.
Là, on est à 507.
Ah, quand même!
Yeah, ça va vite.
Quand même.
Fait que, ça met... Mais parce que, tu sais, Ville-Saint-Laurent, la capacité, c'est quand même juste 1000. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence. Mais, tu sais, vous voulez pas manquer le show à Verdun, OK? Tout ce que je veux dire.
J'ai vu le pacing, c'est comme... La game commence en plein milieu de l'après-midi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, la game est censée commencer à 14h. Elle commence 0 à 14h. Les cérémonies vont commencer à 14h.
C'est ça? Oui, parce que si je dis aux gens d'arriver à... Parce que, dans le fond, comment ça fonctionne avec ESPN, c'est que eux, le temps que tu mets, c'est 3 minutes après, il faut qu'il y ait le puck drop direct.
Okay.
Parce qu'eux, ils rentrent en onde quand... Fait que là, on a dit, sur le papier, c'est écrit 14h30 pour ESPN, mais nous, on a mis 14h sur les billets pour que les gens puissent profiter du pre-show.
Ben oui.
Puis Domino Santonio va être là.
Il y a des gens qui l'avaient découvert.
Ouais, il y a des gens qui l'ont découvert. J'ai impressed.
C'était l'artiste qui avait plus d'un million d'abonnés sur TikTok.
Ouais, fait qu'elle va être là.
Hey, sans restriction, Laurence Chabot, cette semaine.
Rugby.
Oui. J'imagine, elle doit connaître Rosa.
Oui, elle connaît Rosa, Rosalie. Rosa. Oh. Non, mais ce que je trouve nice, c'est que le Rouge et Or a été undefeated cette année. Puis on en parle, mais pas tant que ça.
Okay.
Donc, on a mis de la lumière sur le Rouge et Or avec le capitaine Laurence Chabot.
Parfait, ça. Et là, j'étais à Full Gear en fin de semaine, fait qu'on a un gros show. Les nouvelles.
Bon, y a-t-il quelqu'un qui a mangé des muffins dans une conférence de presse en chialant sur toute l'équipe? Ou?
Non.
Ah, bon.
Non, ça a bien été, en fait. Ça a bien été. C'était... moi, on m'a dit, une des PR m'a dit, on veut vraiment essayer de rendre la conférence de presse... On veut la faire plus courte. On veut que ça soit ben surtout des questions sur l'événement. Là. C'est pas genre un c'est pas un Q&A, tu sais, où ce que tu peux poser. Mais en même temps, Tony veut tellement répondre à toutes les questions que c'est dur à gérer. Et les journalistes, des fois, ils ambitionnent un peu. Tu vois, là, ça perdure. Puis là, il y a un journaliste qui pose une question. Il y a une réponse, puis là, il y a une sous-question.
Ben, c'est ça.
Puis là, ça. Puis moi, dans ce temps-là, je regarde justement la fille de PR, puis je la regarde, puis elle m'a dit après, elle dit tu me craques à chaque fois que tu fais ça.
Ouais, mais...
Parce que, tu sais, toi, tu comprends, puis t'as l'air de le réaliser, mais c'est pas tout le monde qui le réalise.
C'est sa job à la fille de PR de dire non.
Ben, je comprends, t'sais, là, mais quand. Mais Tony, à la fin, là, clairement, là, elle a dit il reste deux questions.
Ouais.
Et après ces deux questions-là, Tony, il a dit bon, y a-tu des gens qui n'ont pas posé de questions? Je vais répondre à ces questions-là.
Non.
Fait que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse rendu là?
Tu
sais, ben oui, mais c'est ça. Exactement. Mais ça a été moins long qu'à l'habitude.
Mais non, mais c'était bien. J'ai écouté pas mal tout, puis il y en a que c'est irrelevant. Mais somme toute, c'était un beau press conference. Puis...
Parlons pour commencer. On va y revenir à la conférence de presse, mais parlons de Full Gear.
Okay, ouais.
Commentaires généraux sur le show. T'as-tu apprécié le show?
Ultimement, c'est un bon show.
Ouais.
Je pense que c'est un des meilleurs shows de AEW du début à la fin.
OK.
Un des meilleurs pay-per-view.
Ouais.
Je trouve qu'il y a eu certains matchs qui ont mal été placés sur la carte qui les a nuis. Puis il y a des matchs qui n'ont pas d'affaire sur le vrai show. Puis dernière chose, puis ça, c'est les gars de Busted Open qui disaient ça, puis j'étais comme, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai. Il y a 3 matchs dans le pre-show.
Mm-hmm.
C'est impossible.
Mais à la base...
Tu peux pas mettre 3 matchs dans un pre-show, là.
À la base, Tony avait dit qu'il voulait commencer à 7h... Il voulait commencer son pre-show à 7, les matchs à 7h30, puis faire 4 heures de show. Finalement, il a commencé ses matchs à 7, puis il a fini à minuit.
Ben,
fait qu'au lieu de faire un show de 4 heures, il a fait un show de 5 heures.
Mais c'est pas supposé être un génie du timing?
Pis c'est beaucoup, beaucoup trop long, 5 heures.
Ah.
Tu sais, il y a des matchs qui avaient pas d'affaires. Il y a des matchs qui auraient pu être enlevés du pay-per-view. Le pre-show était pas obligé d'être de 3 matchs.
Tu peux pas mettre 3 matchs dans un pre-show. Tu peux pas faire ça.
C'est beaucoup.
Parce que quand t'arrives au premier match de la carte, c'est rendu le 4e match pour la foule.
Ouais.
Fait que le match de pis je te dis pas que ça allait être un match où la lutte allait être exceptionnelle. Mais c'est sûr qu'ils sont brûlés quand ils sont rendus au match de, tu sais quoi, là, son nom, Jade Cargill pis Nyla Rose, là. Parce que ça, c'est le 7e match qu'ils ont
c'est
vu.
C'est sûr.
Puis ça donne aucune chance à Nyla Rose puis à Jade Cargill de...
En même temps, il était placé, ce match-là, c'était vraiment...
C'était un buffer.
C'était vraiment ce qu'on appelle le dead spot.
Ouais, ouais.
Qui, habituellement, est deuxième sur une carte, mais sur une carte de 10 matchs, c'est le 3e match qui va être beaucoup plus le dead spot. Et c'était placé là. C'était voulu.
Puis l'autre affaire...
Mais ce match-là était pas nécessairement obligatoire sur pay-per-view non plus.
Mais c'est ça. Ils sont pas de niveau. Parce que l'affaire aussi, c'est... Je comprends que Tony veut mettre tout le monde sur pay-per-view.
Mais c'est ça le problème.
Mais il y a des matchs qui sont pas de niveau pay-per-view.
Non, exact.
Puis Jade Cargill est un pre-show, ça aurait été bon. Tu sais, ce match-là en pre-show pour mener au pay-per-view,
ouais.
Tu sais, la foule, elle aurait été hype du début jusqu'à la fin. Et... En tout cas, moi, j'étais déçu.
Mais moi, je suis pas d'accord que c'est un des meilleurs shows, un des meilleurs pay-per-view. Il y a eu des bons matchs. ça a été un bon show, ou même un très bon show, mais peut-être pas, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'était un des meilleurs pay-per-view de l'histoire des EW, mais ça a été un très bon show. En tout cas, live en personne, ben, la soirée est un petit peu longue, je te dirais.
Mais ben, 5 heures.
Ben, c'est ça.
Il y a trop de matchs.
C'était une bonne heure.
Je trouve juste que du début à la fin,
ouais,
tous les matchs étaient bons. À part Jade Cargill.
Ouais.
Quel autre match qui était pas bon? Puis l'autre affaire aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'ils ont pas mis l'emphase sur des retours ou des arrivées d'autres compagnies.
Non, ça c'est
c'était,
sûr.
C'était un show AEW.
Mais on va les passer match par match, puis on va pouvoir mieux se faire une idée. Bon, le pre-show, passons-le rapidement. Il y a eu le 4 contre 4 ou le 5 contre 5.
Non, mais ça c'était worthless. Moi, je parlais du main show.
C'était même pas obligé d'être là. Ricky Starks a battu Brian Cage. Ouais. Clairement, c'était pas ça le but. Le but, c'était de le mettre à la télé, ce match-là. Ouais. Et il aurait dû trouver une façon de le remettre à la télé. Bon, évidemment, Eddie Kingston et John Akiyama, ouais, ça
full,
c'est le match.
Ça, c'était fou.
Ben, tu vois, c'était bon. C'était pas aussi bon que Kingston et Ishii.
Mais c'est pas le même. C'est impossible que ça soit pareil. Akiyama, ils ont fait un Akiyama match du début jusqu'à la fin.
Je comprends.
Maintenant, pour les fans de ce style-là et de ce lutteur-là, ils ont tout fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Là.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais je te dirais que le match a pas suscité assez de réactions. Ça a été...
Parce que les gens, ils savent pas, parce qu'ils mettent Drew Nakayama sur le show, il y a aucune vignette pour t'expliquer c'est qui.
Il y a rien
pour te dire.
À part que tu sais que c'est le Dream Match à Kingston. Cette émotion-là, je l'ai aimée.
Ouais,
l'émotion de Kingston après le match puis avant le match, ça j'ai apprécié.
T'sais, moi je suis juste comme d'autres, vous mettez quelqu'un, mettez des vignettes là, ça prend 2 minutes mettre des goddamn vignettes.
Mais c'est effectivement le seul match que j'aurais gardé du pre-show.
Juste mentionner que Lou Bélanger, OK, a écouté le podcast la semaine dernière.
Oui.
Puis il a dit qu'il me donnerait un rôle de psychopathe.
Qui c'est à toi?
Mm-hmm.
Oh,
ben, je vais le répéter à chaque podcast jusqu'à ce que ça arrive pour vrai.
Un rôle de psychopathe. Mais t'es pas capable de jouer un psychopathe.
Je suis capable de jouer un psychopathe.
Non.
Yeah.
T'es capable de jouer.
Il a dit, faut que j'apprenne mes textes. Donc.
T'es capable de jouer le gars qui gosse, le gars qui est arrogant, le gars qui est fatigant, l'enfant, le jeune adolescent. Ça tout, mais un psychopathe, je suis pas sûr.
Fuck you, Pat.
OK. moi, je voyais Fred sourire. Donc, le premier match, Jungle Boy, Jack Perry. J'aime qu'on. Maintenant, on est ouais. là, c'est Jungle Boy. Parce que tu peux pas. Puis plein de monde ont dit ça, je suis pas le premier à le dire, mais tu peux pas être Jungle Boy toute ta vie.
Non, mais ça, là, JR.
C'était JR
qui a commencé à l'appeler même
début, Day One.
Tout le monde était comme, non, ben tout le monde, pas moi, là, il l'appelle.
Mais non,
je suis comme, dude.
Moi, je suis super d'accord pour ça.
C'est le meilleur move pour sa carrière au panel.
Ben oui. Donc, il a battu Luchasaurus dans un match de cage. Le match a été bon. Un des top 5 matchs de la soirée, à mon avis.
J'ai aimé les callbacks au match Taker-Michaels.
Oui. La seule chose, c'est que ils sont sortis de la cage dans ce match-là pour aucune raison. Aucune raison. Ouais.
Ben, en fait, la seule raison pourquoi c'est sorti de la cage pour faire ce spot-là.
Mais oui.
Je te dis pas c'est une bonne raison.
Mais c'était pas une bonne raison.
La raison pourquoi ils sont sortis, c'est
pour ça. Oui, mais parce que Michaels et Taker sont sortis de la cage pour monter en haut, faire un gros bump. Les autres, c'est pas ça qu'ils ont fait.
Non. Moi, je te parle le
slingshot. Je le sais. Mais ils sont. Taker et Michaels sont sortis de la cage puis éventuellement sont montés sur le top de la cage.
Ouais.
C'est un Hell in a Cell. Là, dans ce cas-ci. Ils sont sortis de la cage pour aucune bonne raison. Fait que c'est la seule chose, la seule critique que j'aurais vraiment sur ce match-là. Mais sinon, écoute, le saut de Jack Perry à la fin, là, du haut de la cage, il était vraiment solide.
Puis, ben oui, mais ça, moi j'ai trouvé que ça c'était pas beau à la télé parce que on dirait qu'il était short un peu.
Ben, il y a comme, la table a pas cassé
exact,
tout de suite,
exact.
On dirait. Il y a comme eu un bounce, puis le whoop, elle a cassé.
La façon que ça a été shooté, il avait l'air d'être short.
Okay.
C'est pour ça qu'il a dit, je me suis réajusté en plein vol dans la conférence de presse.
Ouais.
Mais, somme toute, le match, pour moi, le match était un très bon match pour le personnage de Luchasaurus, pour le personnage de Jack Perry. Puis, j'aime le fait qu'il a fait tap out Luchasaurus.
Mm-hmm.
Je pense pas qu'il va tap out souvent dans sa carrière.
Non, exact. Deuxième match, évidemment, probablement le match de la soirée. Death Triangle, Pac, Penta et Phoenix.
Yo, ça,
contre The Elite avec beaucoup de monde autour d'eux, là, Don Callis, Nakazawa puis Brandon Cutler, qui, bon, évidemment, ils ont gardé les titres trio. Ouais. Et écoute,
ben, évidemment, moi je pensais pas qu'elle allait garder les titres trio.
Non, je dis évidemment parce que les gens le savent déjà.
Okay.
Mais non, moi non plus. Sauf que là, après ça, on nous annonce qu'il va y avoir un 4 de 7. Puis ça, c'était le premier match.
Moi, je demande des 4 de 7 depuis 3 ans sur ce podcast-là. Moi, je parle encore du 4 de 7 de Booker T puis Chris Benoit. Okay?
Ouais.
Là, on va me donner un 4 de 7 Death Triangle, puis Foot. Puis by the way, Penta était une star lundi à Monday Night Football.
Ouais. Ah oui, ok, j'ai pas vu.
Il était là, puis.
Il était où?
Il était au match. Le match était au Mexique.
Quelle ville?
Au Mexique.
Ok.
Puis. George Kittle, c'est un gros fan de lutte.
Ok.
Un joueur des 49ers. Puis George Kittle, il le spot dans la foule. George Kittle, il court, ça va le voir. Il se fait un gros câlin et tout.
Wow.
Puis Penta avait un masque. Pour ouais. George Kittle, le masque de Penta,
ben oui.
49ers, tout fait. Kittle, son premier touchdown qu'il a fait, il a fait le move de Penta.
Ah, c'est nice.
Vraiment nice. Là, tout le monde parlait juste de ça.
J'ai voir la clip, ouais. J'ai pas vu
la clip. À la conférence de presse, il est arrivé avec le masque.
Okay.
Là, les gens étaient comme, c'est quoi ça? Il a expliqué, c'est un de mes lutteurs préférés, wow. Penta. Oh, ouais, c'est huge, là.
Ah, c'est bon, ça. Puis, en tout cas, un 4 de 7, la seule chose, c'est que j'espère qu'ils vont... C'est beaucoup sept matchs. J'espère qu'ils vont être capables de créer des surprises, c'est-à-dire de nous surprendre, de. Tu peux pas faire sept matchs de 20 minutes avec juste des spots. Ça va être le même match pendant sept matchs.
Non, mais si.
Je pense que c'est six gars qui sont capables d'être assez créatifs pour nous offrir des matchs différents.
Mais c'est ça, mais si y a des gens que je crois, c'est eux, là, qui vont être capables de bien faire, c'est eux.
Puis évidemment, bon, le gagnant des titres, c'est celui qui va être le premier à remporter quatre matchs.
Ouais.
Le titre sera pas perdu et gagné à chacun des matchs. Et là, ben, le dernier, c'est le 14 janvier à LA.
Bon, ouais.
Pis c'est si nécessaire. C'est la seule chose que j'aime moins d'un 4 de 7 comme ça. C'est on le sait que ça va se rendre au 14 janvier.
Je comprends, mais.
Mais les matchs vont être bons. Non, mais je veux juste te dire, les matchs vont être spectaculaires, les matchs vont être bons. J'espère qu'on va jouer dans le temps aussi. Tu sais, un peu comme Guido fait avec le G1.
Ouais.
Moi, ça me dérange pas de voir à un moment donné un match, écoute, là,
de 4 minutes.
Ben oui, ouais. Exactement. Ça me dérange pas.
Puis moi, j'aimerais voir un DQ.
Sur 7 ou un DQ.
Tu sais, un DQ, puis match numéro 6. Pac, il pète une coche.
Surtout qu'ils ont besoin de faire un DQ de temps en temps. Parce que là, à Full Gear, il y a eu quoi? 4 finishes avec des objets ou avec des choses.
Non, mais les arbitres sont pas bons à AEW.
Ben,
c'est rendu grave.
C'est pas
là.
Les arbitres, mais on les fait mal paraître. Tu peux pas avoir 4 finishes qui auraient dû être des DQ puis que l'arbitre le voit jamais. Parce qu'il y a eu justement ce match-là. Il y a eu ce match-là.
M'excuse, mais
il y a eu le match avec Britt et Saraya.
L'arbitre était devant le dos avec le marteau.
Mais c'est ça.
Ouais, mais faites une distraction que l'arbitre ne regarde pas. L'arbitre, il check pour le move. Il y a un coup de marteau, il fait rien.
Faites une disqualification de temps en temps. Ils sont tellement fermés. Tu sais, quand ils ont dit au début, on veut pas qu'il y ait de disqualification. On veut pas faire des 4 matchs avec des disqualifications, tu sais, comme à Raw. Mais OK, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas en faire aucun en 3 ans. Il y en a peut-être pas eu aucun, là, mais c'est très, 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 très rare. Trop rare, en fait. Le match était vraiment, vraiment excellent. J'ai
meilleur
bien aimé.
Meilleur match de la soirée.
Meilleur match de la soirée. La toune d'entrée de The Elite. Ils vont garder cette toune-là, d'ailleurs.
Puis les boys avaient l'air contents en plus.
Ouais.
Ça a rajouté au moment parce que, tu sais, quand Matt Jackson il chantait la toune à tue-tête, là, j'étais comme, OK, les gars sont juste contents d'être là. Je suis content de les voir, puis let's go.
Le dead spot qu'on a parlé brièvement, Jake Cargill qui a défait Nyla Rose. Bon, sur Twitter, parce que je faisais un Twitter live durant le show. Et là, les gens, moi, ce que j'aime pas de ce match-là, c'est que non seulement c'était le moins bon match, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est deux filles qui ont besoin de lutter contre meilleur qu'elle pour bien paraître.
Puis ils mettent une contre l'autre.
Et là, il y a quelqu'un qui me dit, oh, faut arrêter de penser que Cargill, c'est une technicienne.
Il y a personne qui pense ça.
La personne me dit, arrêtez de vouloir qu'elle fasse des bons matchs. C'est Goldberg et elle est bookée comme Goldberg. Et là, sur le coup, j'ai argumenté un peu avec, puis ça m'a fait réfléchir. à part la série de victoires, c'est aucunement Goldberg, Jake Cargill.
Ben non, elle
a... parce que Goldberg, là, j'ai des stats, OK? Je vais juste prendre le temps. Goldberg, de juin à décembre 97, quand il a commencé, là, il faisait des matchs là, en bas de 3 minutes. Ouais, des fois, c'était même ça. Des squash en bas d'une minute. Son premier match de plus de 3 minutes, c'était à Starcade. C'était son 20e match contre Steve McMichael. Ça a duré 6 minutes. Ils sont revenus à des matchs de moins de 3 minutes après. En avril 98, il fait un 15 minutes contre Finlay dans un house show. Un 8 contre Saturn sur pay-per-view, puis il gagne en 5 contre Raven, le titre US. À ce moment-là, il est rendu déjà à plus de 60 matchs. Ils ont recommencé à faire des squash. Il y a eu un 7 minutes en mai contre Saturn, puis un 8 minutes contre Hogan en juillet quand il a gagné le titre.
Trop de temps, man.
Il était rendu à ce moment-là à 120 matchs. Ça, c'est le booking de Goldberg. Des squash. De temps en temps, un match de 7-8 minutes. Cargill, là, elle a commencé en mars. À son deuxième match à Dynamite, elle était rendue à des matchs de... Elle a fait 7 minutes. Dans ses 15 premiers, elle a fait 2 fois 5-6 minutes. Puis, regarde bien ça, là. À partir de son 20e match, 20 minutes, 11, 9 minutes, je veux dire. 11 minutes contre Thunder Rosa, 11 minutes contre Ruby Riott, 8 minutes contre Anna Jay, 7 minutes contre Aqua, 7 minutes contre Bonnie, 7 minutes contre Ty Mello, 11 minutes contre Marina Shafir, 7 minutes contre Willow, 7 minutes contre Madison Rain, 8 minutes contre Nyla Rose. Elle est rendue à 43 matchs seulement. Donc, elle n'a pas le booking de Goldberg. Elle fait des 8, des 7, des 11 minutes. Ouais. Je m'attends à ce qu'elle sache lutter pendant ce temps-là. C'est pas un squash. Elle a de la misère à vendre. C'est une de ses grosses faiblesses. Puis elle les squash pas. Fait que c'est pas le booking de Goldberg à part pour la série de victoires.
Puis...
Parce que si elle fait juste des squash de 2 minutes et moins, là, j'embarquerais. Puis je chialerais pas.
Non seulement ça, Goldberg, il n'y avait pas de temps de promo comme elle a dit temps de promo. C'est un total package, Jade Cargill. Là.
Oui, mais elle est encore trop verte pour avoir des matchs de 11 minutes. J'avais oublié ça, 11 minutes contre Marina Shafir. Tu peux pas, tu l'exposes quand tu fais ça. Ben,
je comprends.
Puis là, ça a été quoi? 8 minutes contre Nyla Rose?
Je comprends, mais tu donnes du temps de glace. C'est juste donner du temps de glace sur un pay-per-view, pour moi, ça se fait pas.
Non, mais donner du temps de glace à la lutte, c'est différent. C'est pas juste du temps de glace que ça te prend. À un moment donné, il faut que tu travailles contre meilleur que toi.
Oui, mais tu donnes du temps de glace contre des moins bons, mais faut que tu balances avec des meilleurs aussi. C'est ça l'affaire.
À un moment donné, puis là, dans la liste que je vous ai nommée, là, Aqua, Bonnie, Anna Jay, Ty Mello, Marina Shafir. C'est pas nécessairement, tu sais, la crème de la crème. Ce match-là, je l'aurais enlevé du pay-per-view. T'as dit, je l'aurais mis en pre-show. Curse Jericho, qui a défait Claudio Castagnoli, Brian Danielson et Sammy Guevara pour garder le titre Ring of
Honor.
Quel
match!
Un de mes top 5 de la 3. Soirée.
Wow, quel match! Un match bien ficelé. J'ai aimé comment ils ont créé la distorsion, whatever, ouais. Avec Jericho puis Guevara. Guevara, il était stiff. Genre, il était beau à voir, là. Puis, non, moi, j'ai vraiment tout aimé.
Beaucoup, beaucoup aimé ce match-là, moi aussi. Seule chose, j'aurais aimé que... Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, mais j'aurais aimé que ce soit qu'il affronte 3 anciens champions de Ring of Honor. C'était ça, la gimmick. Il affronte des anciens champions. Ouais. J'aurais juste aimé qu'on respecte un petit peu le storyline à ce niveau-là. Mais bon, en même temps, on sait qu'à un moment donné, ça va être Jericho Guevara. Fait que, tu sais, c'est correct aussi de l'avoir, de l'avoir commencé là. Ou en tout cas, de l'avoir continué d'une certaine façon là.
J'aurais mis Buffalo Kid, là.
Daniel Garcia
à la place de Guevara. Mais Guevara, il est tellement bon avec... Il y a une chimie folle entre Guevara et Brian Danielson en ce moment, là, que je comprends un peu plus. Puis pour moi, Claudio Castagnoli...
C'est un bon heel, Sammy Guevara.
Il fait rien pour moi, Claudio. Il fait rien pour moi. Pour vrai, moi, je comprends qu'est-ce que Vince voyait pas en lui.
OK.
Parce que ça fait ça.
Mais
fait
c'est drôle parce qu'il a souvent été le plus sous-estimé. Puis j'ai l'impression que cette année, on le verra pas comme un sous-estimé. Parce que là, il a comme eu la chance.
Ouais. Puis il fait rien, là. Il fait rien pour personne.
Saraya a battu Britt Baker. Ah, écoute, je veux pas être critique du match. La fille a pas lutté depuis 5 ans. Tu voyais qu'elle était rouillée.
Ben oui, puis.
C'est correct.
Tu voyais qu'elle avait des hésitations.
Ben oui. Mais elle m'en a assez montré. Que
ça va bien aller.
Je suis pas inquiet qu'elle va revenir dans une forme où elle va être capable d'offrir de très bons matchs parce qu'elle a déjà été à ce niveau-là.
Ben, je suis pas d'accord avec toi.
OK.
Nomme-moi un match mémorable de Paige.
à NXT. Elle a eu d'excellents matchs à NXT, sa rivalité avec Emma, entre autres.
Mais c'est pas des matchs... Son match avec Emma, là, que tout le monde parle, que c'était... Mm-hmm. C'était autant... Dans le temps où ce match-là a été créé, où ce match-là a été fait, excuse, la lutte féminine était pas au niveau que c'est maintenant. Dans le sens que c'est un match qui était bien... Mais c'était pas rien d'exceptionnel. Là. C'est pas dans les top 5 des meilleurs matchs de l'histoire féminine des NXT. Même pas dans le top 10.
Non, mais ils ont été des pionnières pour NXT.
Oui, mais moi je parle en termes de qualité de lutte. Là. Emma, Soraya, pour moi, elle a jamais... Un peu comme CM Punk. Là. Ça a jamais été des lutteurs, lutteuses exceptionnels.
Ben,
c'est des gens qui font du bon storytelling.
C'est des gens qui. Saraya, je trouve que fait. Ça, c'était son gros point fort. C'est le storytelling.
100%.
C'est l'acting qu'elle amène 100%. Dans son match. Mais moi, c'est de ça que je te parle. Même cet aspect-là,
elle
tu voyais.
Pas.
C'est correct. Tu voyais qu'elle était nerveuse. Elle était sûrement beaucoup plus dans sa tête que n'importe quel autre match qu'elle a eu dans sa vie.
Je trouve juste que Britt Baker, elle a mal paru parce qu'elle a dû baisser son niveau. Pour atteindre le niveau de Soraya au lieu qu'elle garde son niveau pour que Soraya atteigne son niveau.
Ouais,
son niveau.
Mais en même temps, tu sais, comme je te dis, moi, je veux pas être critique du match. La fille, elle avait pas lutté depuis 5 ans. Je trouve qu'il y avait de l'émotion dans ce match-là quand même. Et moi, je pense que, bon, tu sais, en bout de ligne, la seule chose que je vais te donner, c'est. Comme tu disais tantôt, c'est un pay-per-view, on s'attend à des matchs de qualité pay-per-view. Est-ce que j'aurais préféré, par exemple, l'avoir sur Dynamite, ce match-là? Peut-être ça aurait même été mieux parce que ça aurait peut-être attiré un gros rating.
Puis elle aurait été moins stressée.
Puis peut-être qu'elle aurait été moins stressée. C'est juste ça, mais ça, c'est pas elle qui contrôle ça. C'est pas elle qui décide d'être sur pay-per-view. On la boucle là, puis bon, OK, let's go. Ouais. Mais en bout de ligne, j'ai quand même aimé. Il y a des signes encourageants de ce que j'ai vu, puis tu sais, c'est juste une question maintenant de reprendre la forme, puis tu sais, se débarrasser de la rouille, c'est le ring rust qu'on appelle. Champion, le Samoa Joe en fait a battu Powerhouse Hobbs et Wardlow pour gagner le titre TNT, lui qui est déjà champion télé de Ring of Honor. Tu vois, ça, ce match-là, ça aurait pu aussi sauter du pay-per-view.
Ben, j'ai trouvé que c'était quand même un bon match pour les gros bonhommes.
Mais c'est pas un match qu'on va se rappeler, c'est pas un match mémorable.
Non, mais tu peux pas te rappeler de tous les matchs.
Ça a pas craqué mon top 5.
Tu peux pas, s'il y a 10 matchs, c'est sûr que c'est pas tous les matchs qui vont être dans.
C'est sûr.
C'est un match. Moi, je trouve que c'est un match de pay-per-view quand même parce que les trois gars sont over.
Oh!
Il l'est quand même.
Parle-moi d'un gars qui ont échappé.
Oui, il a échappé, mais dans le sens que c'est pas Bonnie.
Non, je comprends.
C'est un match qui avait sa place sur le pay-per-view. C'est un match qui est sur le bottom des 10, le bas des 10 matchs, mais ça l'amenait un autre aspect au pay-per-view. Parce que là, t'avais le gros match des heavyweights, puis c'est ça, AEW, c'est un buffet.
C'est sûr.
Quand j'ai vu les gros boys, j'ai fait « Oh shit, OK ». Fait que ça a attiré mon attention. J'avoue que je ne reverrai plus les gros boys après durant le reste du show. Fait que moi, j'ai quand même bien aimé la variété que ça l'a amené.
Le match, écoute, évidemment, le match était bon. Je dis pas que le match était pas bon. C'est juste que pour moi, il est moins venu me chercher ce match-là. Puis si j'avais eu à enlever, mettons, trois matchs du pay-per-view, il aurait fait partie de ces trois matchs-là.
Ça aurait été tes trois moins bon match du pay-per-view.
Pas nécessairement les moins bons, mais ceux qui auraient pu... Ceux, je pense, qui auraient eu avantage à être à la télé, mettons.
Je trouvais que c'est une bonne idée d'avoir le puis surtout qu'on savait pas qui allait gagner. Tu sais, il y avait des chances que ce soit Wardlow, il y avait des chances que ce soit Samoa Joe, puis...
À ce niveau-là, ça, je te le donne.
Il y avait une crédibilité aux trois pour gagner le championship, tu sais.
Darby Allin et Sting ont battu Jay Lethal et Jeff Jarrett. Mais toi... Ça, par exemple, live, c'est le match que je déteste. Parce qu'il se passe tellement d'affaires. Ouais. Tu sais, moi, à un moment donné, là, il se passait quelque chose à ma droite avec, c'était qui, avec Jarrett et avec Sting.
Ouais.
Ou non, avec Jarrett et, oui, c'est ça, Jarrett et Sting. Moi, le jump de cough and drop de l'échelle. Moi, je l'ai vu partir. Là, il se passait quelque chose à ma droite. Puis là, je regardais à ma droite. Moi, j'ai jamais vu le grand patinet pogner. Parce que de un, c'était loin. Puis de deux, parce que moi, j'étais à l'autre extrémité. Fait que j'étais plus proche de... Fait que c'est juste... Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui l'ont juste même pas vu, le cough and drop.
Mais
fait que c'est juste ça que moi, j'aime pas le live de ce genre de combat-là.
Mais
à la télé, c'est une autre expérience.
Puis il y a aussi le fait que c'est pas... les 10 matchs de même non plus. Là, c'est un match. Puis à la télé, ça, c'était nice. Non,
c'est pour ça que je te dis. Mais live, c'est le genre de match que moi,
c'est tough live.
C'est tough de l'apprécier. Ouais.
T'sais, mais c'était un excellent match. Là. Genre, tout le monde a bien paru, même le géant Xarien a bien paru. Le Scorpion Dead Drop, il a un peu échappé, le finish. Mais j'ai aimé le fait qu'ils l'ont pas relevé. Puis souvent, il manque un spot, on va le relever. Mais non, là, ça faisait du sens. Le momentum l'a amené à terre. Boom, coffin drop. Puis ben, Sting, toutes les affaires de Sting, c'est bon.
Il a 63 ans.
C'est terrible.
Mais moi c'est
une chance qu'il y a du maquillage. Hein? Non, mais.
Mais t'as raison.
Une chance qu'il y a du maquillage.
Il vieillit moins à cause de ça.
Mais il vieillit pas.
Ouais.
C'est le même Sting que TNA.
Ouais.
Puis j'ai aimé le TNA Chan quand il y avait Jarrett puis lui. Puis Jarrett, pour vrai, c'était le plus gros heel de tous ceux qui étaient là, c'était Jarrett le plus gros. C'est pay-per-view au complet.
Moi, c'est le match, ça a été mon pee-pee break. Parce que justement, live.
Ouais.
Fait que moi, en rentrant, on voyait il y avait des télés partout à l'intérieur. Parce que, comme en arrière de ma section, il y avait comme deux bars. Puis il y avait des télés partout. Fait que j'ai pu le voir un peu à la télé. C'est d'ailleurs que quand j'étais aux toilettes, je croise complètement par hasard Ivo Luno. Que je suis un des rares à reconnaître. Parce qu'évidemment, il s'en va pas pisser avec son masque.
Ah, oh, c'est bon!
Fait que moi, il rentre, j'ai comme. Je fais comme un double take. Je fais comme, qu'est-ce que tu fais là? Il me regarde, toi, qu'est-ce que tu fais là?
C'est vraiment bon.
C'était vraiment drôle.
C'est vraiment bon.
Par hasard.
C'est quoi les chances?
Écoute, j'ai pas vu Matt pis Jeff. Angelo Parker puis Daddy Magic. Je les ai pas vus. On restait au même hôtel. Je les ai pas vus du week-end. Wow. On s'est parlé, mais j'ai pas eu l'air de le voir. Puis je croise aux toilettes Ivo Luno complètement par hasard.
C'est bon.
Jamie Hayter a battu Toni Storm pour gagner le championnat intérim féminin. Mon troisième, tu sais, je te disais top 5 tantôt. Là. Mon premier, c'était le 3 contre 3. Mon deuxième, c'était le Chris Jericho match. Puis mon troisième match de la soirée, c'était Jamie Hayter puis Toni Storm.
J'ai aimé le match.
Ah, j'ai adoré.
J'ai aimé plus le match parce que les gens voulaient vraiment
C'était la bonne.
Ouais.
Il aurait passé à côté de quelque chose. Il s'avait pas fait gagner Jamie Hayter.
Non, man, moi, tout le monde sait que Jamie Hayter, she's the one. Là.
Mais c'est, tu sais, ce que j'aime de ça, c'est qu'elle, c'est devenu vraiment organique.
Ouais.
Je pense pas qu'au début, okay,
là,
il pensait.
On peut juste enlever l'affaire intérimaire, là?
Ben, ça va dépendre de Thunder Rosa. Je pense que Tony Khan l'a expliqué, il veut donner le plus de chances possible à Thunder Rosa de revenir.
Elle est blessée, man.
C'est
quand elle vient, tu donnes une chance pour le titre.
Ils font la même chose au UFC.
Ben oui, mais c'est
pas... Puis ils font la même chose à la boxe aussi. Mais à un moment donné, ils vont l'enlever le titre, puis ils vont mettre ça là si ils voient que Thunder Rosa revient pas.
Moi, je trouve juste que c'est paresseux.
Ben.
Tu sais, mettons, il l'annonce de new intérimaire champion. J'étais comme.
Oui,
c'est qu'un buzz killer, là.
Ben, je pense pas que les fans se sont bâclés de ça, remarque. Mais pour vrai, pis ça fait longtemps que je le dis, Jamie Hayter, en ce moment, c'est la lutteuse, là, à AEW. De autant sa lutte que son acting, son non-verbal, son charisme. Moi, là, pour vrai, Jamie Hayter, numéro un sur ma liste de ce roster-là, du côté féminin. Acclaim ont battu Swerve and Our Glory pour garder
double
les
rap.
Titres. Un double rap, hey! Mon Dieu, prenez mon argent, j'en veux plus. Je pense que j'ai écrit sur Twitter que c'est comme ajouter une boule de crème à glace sur du bonheur.
Oh.
Un double rap, man, j'étais surpris, puis c'était comme, oh, c'est tellement cool. Puis ben là, c'est la fin, ça sent la fin pour Keith Lee et Swerve
c'était
Strickland.
Le
moins bon des trois.
Ouais,
par beaucoup en plus.
Puis.
Fait que je suis content qu'on fasse une séparation entre les deux autres.
Ouais.
Ça veut dire qu'il n'y en aura pas un quatrième en principe.
Mais le passons à autre chose. Au moins, ça l'a amené Keith Lee puis Swerve Scott à un autre niveau.
Oui.
Parce qu'il était fuck-all les deux avant.
Non,
là.
Effectivement.
Au moins, les deux, ils ont monté un peu.
Et la finale, MJF qui a battu John Moxley pour gagner le titre des AEW avec l'aide de William Regal. Fait qu'on n'a pas décidé de laisser MJF babyface, même si la foule... Écoute, Moxley est sorti pis il était heel, là. Tu sais, MJF était même pas... Ils ont rien fait. La foule, c'était clair que MJF était babyface. Non, mais même les derniers TV taping, ils étaient pas nécessairement chez eux, puis tu le voyais. D'ailleurs, t'as eu 3 sur 3, là. Fais 3 ding-ding-ding, là, mon Fred. Trois fois. Ah, tu l'as fait trois fois.
J'ai eu 3-3.
Ben, 3-3 dans les Nostradakev la semaine dernière.
Ah, pour vrai?
Ben, parce que t'avais dit qu'MJF serait plus over babyface que Moxley, hein? Que Saraya serait plus over babyface que Britt, et que Jamie Hayter serait
non,
plus...
Non, que Britt serait plus babyface.
Excuse-moi, que Britt serait plus babyface que Saraya, et que Jamie Hayter serait plus babyface que Tony.
C'est bon pour ma moyenne, ça.
Ouais. Et MJF, c'est ça. Moxley était le gros heel, donc ils ont décidé d'aller à l'inverse. Ouais. MJF qui a tourné heel à la fin. Le match était bon. Pour moi, c'était mon 5e match de la soirée. Moi, j'ai... moi, 4e, c'est le match de cage. Puis je lâche celui de 5e.
J'ai pas... Ben, c'était pas un mauvais match. Là.
C'était top 5. C'était un bon match, mais...
C'était pas... C'était loin d'être le meilleur. C'était loin d'être le deuxième meilleur. C'était loin d'être le troisième meilleur.
C'est pour
meilleur,
ça c'est mon 5e.
C'est ça, mais ça, je dis maintenant...
C'est la finale.
Loin.
Oui, oui, oui.
Ce qui était nice, c'était le ce qui était autour.
Exact. C'est l'enrobage qui était nice.
Les deux entrées étaient meilleures que le match.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Je veux te parler de Rampage rapidement parce que j'étais à Rampage la veille. 2 heures de dark, là. C'est long.
Ça a pas de bon sens.
Parce que la première heure, heure et quart, c'est juste des squash. Puis ça va vite, là. Squash après squash après squash. Puis c'est du talent qu'on connaît pas parce que c'est souvent des indies. Et puis, ensuite, là, tu commences à avoir des EW contre des EW. Ouais. Pour vrai, à un moment donné, même nous autres, là, avec mes amis, j'avais 2 de mes amis avec moi, on a été justement en arrière dans notre section, s'asseoir sur un divan, manger un pretzel, puis regarder ça à la télévision. Parce qu'à un moment donné, ça devenait long. Shout-out aux Québécois. Matt, Daddy Magic avec Angelo Parker et Ivo Luno, les trois ont lutté sur Dark, donc c'est ça, on était bien contents de les voir performer, de les voir interagir avec la foule. Également, Matt et Jeff, d'ailleurs, sont sortis également dans le match de Jake Hager, donc on les a vus une deuxième fois, puis... Il n'y a pas eu de match là pour vrai mémorable à aucun de ces darts là. Il y a eu 4 matchs à Rampage. Le meilleur des 4 a été Joe Nakayama et Konosuke Takeshita qui ont défait Eddie Kingston et Ortiz. Puis bon, c'est ce qui a mené d'ailleurs au match sur le Zero One Hour entre Akiyama et Kingston. Conférence de presse des EW, tu m'as dit tu l'as écouté une bonne partie.
Ouais.
Bon, les grosses nouvelles qui sont sorties, c'est que EW Revolution va avoir lieu le 5 mars au San Francisco Chase Center, donc la première fois dans le marché. Tony Khan a également dit que le show de samedi dernier, Full Gear, va faire à peu près le même nombre de pay-per-view buys, d'achats de pay-per-view, que All Out. Donc, on parle d'à peu près 140 000 ou peut-être un petit peu plus. Ce qui est bon.
C'est très bon.
Ce qui est très, très bon. Et puis, bon, il y a eu une promo d'MJF. Écoute, à un moment donné, je l'ai filmé, la promo, parce que, bon, t'es à côté, tu sais. Et... À un moment donné, il regardait carrément mon sel. Je pense qu'il a fait le tour. Il regardait, tu sais, comment t'appelles ça? Les objectifs d'à peu près tout ce qu'il filmait. Mais c'est une conférence de presse. Moi, j'ai de la misère avec ça. D'un, ça allonge la conférence de presse. Deuxièmement.
Il est resté là 5 minutes, là.
Mais c'est 5 minutes de plus. Mais.
Non, mais on s'entend, c'est le champion. Il fallait qu'il soit là. Fait que c'est, ça a sûrement été moins long parce qu'il a fait ça que s'il avait répondu aux questions des gens.
Je comprends. OK. Mais moi, je veux voir MJF me parler du match. Je veux voir MJF me parler.
Oui, mais.
Je veux pas voir MJF en gimmick à une conférence de presse.
C'est pas une conférence de presse de hockey. C'est pas une conférence de presse. C'est une conférence de presse à la New Japan.
Ben, moi, ça, j'aime pas ça.
Mais t'as le droit.
Moi, j'aurais préféré qu'il fasse ce promo-là dans le ring après son match.
T'as le droit.
Moi, je trouve que une conférence de presse, c'est une conférence de presse. Commençons à traiter ça sérieusement. Même si c'est de la lutte.
Il l'a traité sérieusement parce que tout ce que le monde parlait, c'est la conférence de presse après.
C'est pas grave. C'est en gimmick. C'est pas sérieux. T'es en gimmick. La lutte aurait avantage des fois à sortir de la gimmick.
Moi, je suis pas d'accord, man. Je te dis pas de faire juste des conférences de presse en gimmick. Mais mettons, Jay White, quand il fait sa conférence de presse.
Je suis pas plus d'accord.
Après, t'as le droit.
Ben, je sais, j'ai le droit. Mais moi, j'aime pas
on
ça.
On va jamais être d'accord sur ce point-là.
Ben non. Mais moi, je trouve que la lutte devrait tirer avantage d'être plus réelle dans certaines de ses affaires pour que le monde réalise que ces gens-là, ils mettent beaucoup d'efforts dans ce qu'ils font. Là, tout ce que tu vois, c'est un gars qui fait une promo real, puis même si ça a eu de l'attention, la même promo dans le ring aurait eu la même attention.
Non.
Oui.
Non, pas d'accord. Ben, okay. Vraiment pas d'accord.
OK. J'ai posé une question à Saraya, donc j'étais bien content de ma question, en fait, parce que personne ne lui demandait. Je lui ai demandé combien d'entraînements puis de bumps elle avait eu le temps de faire entre le 31 octobre, date où elle a eu le OK de bumper, et le match qui avait lieu, le c'était quoi la date du show, le 18 novembre, c'est ça? 19 novembre. Donc, elle m'a répondu que, dans le fond, elle s'est entraînée à chaque jour. Elle s'est entraînée également avec sa famille au UK, puis avec les frères Santino en Californie, même que Jungle Boy lui a offert son ring pour qu'elle s'entraîne. Donc, tu sais, dès qu'elle a eu le hockey, ben, elle a recommencé à bumper le plus rapidement possible. En même temps, c'est pas comme si elle avait fait, tu sais, vraiment un match où, je pense pas qu'elle a eu le temps, tu sais, de, c'était pas un camp d'entraînement au complet, mettons, là, tu sais, c'est arrivé vite. Mais au moins, elle a eu le temps de bumper tout ça. J'ai également posé une question à Tony Khan sur, maintenant qu'il y a une présence en français au Québec, puis avec ce que la WWE fait comme vente de billets à Montréal depuis quelque temps, si Montréal devenait au sommet de sa liste pour le Canada, maintenant qu'il a fait Toronto, puis il a reconnu la riche histoire de Montréal, les importantes recettes que les choix à Montréal font, et il dit que après Toronto, c'est plus facile au niveau de la logistique pour venir au Canada. Donc, oui, Montréal fait partie de sa courte liste. Il n'a pas confirmé que c'était au sommet. Mais oui, elle fait partie de sa courte
c'est
liste.
C'est vraiment cute. Il y a un coach, ben Malcolm, je le connais bien. Mais, tu connais Malcolm, le grand black. Tu connais pas Malcolm? Puis, je dis le grand black, pas parce que je le définis parce que c'est un grand black, mais c'est juste parce que je l'ai nommé par son nom après. Puis, je me dis peut-être qu'il connaît son physique. Bon.
Kev, de nous trois, là, t'es celui qui avait le droit de dire grand black. Là. Y a pas de problème. Continue.
Non, mais j'ai senti le besoin de m'auto-justifier ben oui. À moi-même.
Déjà que je comprends pas pourquoi tu nous parles de lui.
Non, parce qu'il a mis une story, mais vous pouvez pas la voir, mais je vous dirai sur ça. Tous ces joueurs d'hockey viennent au match de samedi.
Okay.
Puis tous les kids ont fait des pancartes.
C'est cool.
Des gars ont fait des pancartes pour des filles.
C'est bon, ça.
Mais moi, je trouve ça fou. Ça va être comme Monday Night Raw.
On peut-tu revenir aux nouvelles?
Ouais.
OK. Ben non. Mais note d'EW, j'ai quelques notes. Ben, premièrement, EW a signé Takeshita. Ouais. Donc, il va déménager aux États-Unis.
Ben, lui, il était bon.
Et il a confirmé qu'il était pour aussi continuer à travailler pour DDT. Il va être maintenant situé aux États-Unis. Jim Ross a fait uniquement la moitié du show. Ouais. Moi, j'ai vu Jim Ross la veille. Puis j'y ai d'ailleurs demandé, je dis, tu fais-tu tout le show demain? Ça, c'était le vendredi soir, après ouais. Rampage. Et il m'a dit, je fais le show, mais je peux pas te dire si je fais tout le show, j'ai aucune idée.
Ils sont en train de l'effacer petit à petit, hein?
Fait que là, il a fait la première moitié, c'était une décision de Tony Khan, puis la deuxième moitié, c'était Tony Schiavone.
Mais le problème, c'est que je pense qu'il pensait pas que Taz allait être aussi fort.
Peut-être.
Parce que Taz est vraiment bon.
Il est bon. Je vais donner ça. La chanson Wayward Son de Kansas que Elite a utilisé, ça va être la nouvelle tune de The Elite.
Ouais, c'est parfait.
Donc c'est pas Kenny Omega en simple, c'est pas les Bucks en équipe, c'est uniquement quand les trois. Fait qu'on va l'entendre 7 fois là, ou 6 autres fois dans le 4-7, mais c'est ça. Le show a pas été à guichet fermé, on est passé près avec 626 billets qui restaient, 11 842 billets de distribués sur 12 474, quand même une bonne foule. Et dernier point, dans les notes que j'ai, peux-tu croire qu'au niveau de la marchandise, il y avait rien de The Elite, Saraya, Britt, Orange Cassidy et Chris Jericho?
Ben non. Attends, il y avait rien ou il restait plus rien?
Ah, il y avait rien. Ils ont sellé out les t-shirts de Scissor Me Daddy. Ouais. Et c'est ça. Mais il y avait rien de... Imagine, Elite revient, ils ont pas de t-shirt. Saraya revient, elle a même pas un t-shirt, elle a rien. Britt, qui est quand même une des personnes les plus over de la compagnie. Orange Cassidy, puis Jericho. Puis un des amis, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le foulard d'MJF dans la foule. Mais ça, c'est un foulard qui se vend. Là, qui
oh
est
oui.
Fait que il me disait pourquoi AEW a pas voulu capitaliser ce foulard-là.
C'est des malades, eux
autres. Changer le foulard d'MJF pour un foulard qui leur appartient, mais non, puis mais commencer à le vendre.
Non, non, mais ils ont juste à modifier un peu le. Tu sais, on garde le même design, là.
Ben, je comprends, mais il faut. Ben oui, mais il faut juste qu'ils fassent attention.
Tu fais attention au copyright, mais
tu crées un foulard.
Mais tu vois la même chose, tu sais. Ben oui, mais c'est ça. Des bootlegs, là.
T'en recrées un, puis tu le vends.
Un bootleg,
il y en a pas. S'il y avait eu des foulards en vente, je te jure,
ils vendaient tout.
Ils vendaient tout, c'est sûr et certain. Surtout avec le froid qu'ils faisaient. Donc, pour terminer sur AEW, BTE était de retour après le pay-per-view, après 11 semaines d'absence. Et honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, peut-être que toi tu vas être d'accord avec ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'était pas nécessaire qu'ils, tu sais, dans le début de l'émission, qu'ils coupent la musique puis qu'ils mettent l'emphase sur les chaînes de FUCM.
Ben, moi je suis bien d'accord.
Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Les trois gars sont quand même revenus dans leur position d'EVP. C'est des cadres de la compagnie. Et c'est pas juste des lutteurs. Des cadres de la compagnie devraient pas faire ça.
Mais en même temps,
c'est uniquement basé là-dessus.
En même temps,
je comprends.
Ça, c'est selon ce qu'on connaît d'un cadre de la compagnie. D'une compagnie. Parce que, selon.
Ben oui, mais ils sont EVP ou ils sont pas EVP?
Oui, mais EVP, moi, je suis président, je suis pas président. Je fais pas la même chose que New York et les autres équipes, loin de là, là.
Non.
Fait que tu sais, dans le sens que.
Mais en même temps, tu vas agir plus corporate.
Ben non, j'ai dit à. Ok, j'ai pas dit à personne.
Non, je dis, tu vas être plus corporate que dans certains autres de tes rôles que t'as dans ta vie professionnelle.
Ben, oui, puis non. Parce que l'affaire, là, c'est que.
Je t'ai vu aller à la conférence de presse pour la force.
Ben, je suis arrivé en hoodie, puis en casquette par en arrière, puis en jogging.
Mais c'est correct. L'habillement, ça fait partie de ton brand. Je veux juste te dire que dans ton verbal, t'étais beaucoup plus corporate.
Oui, je sais, mais ça fait partie de leur brand que being the elite, ça soit un peu revanchard, que being the elite, ça soit un peu
edgy,
puis tout ça. Fait que ça fait partie d'eux maintenant. Je comprends ton point de dire que c'est même pas réglé nécessairement. Ou peut-être c'est réglé, puis on le sait pas.
Mais je comprends, mais en même temps, il y a eu une enquête, ils ont été suspendus, il y a tout ça qui arrive. Toi, avec, je comprends, là, j'essaie de faire un parallèle, mais toi, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui te poursuivait pour la force, là.
Non, mais c'est ça que je te dis. Mais exact. L'autre affaire aussi, c'est que on n'a jamais eu de dénouement à l'enquête.
Ben, pas publiquement.
Mais
s'il y en a une, on le sait pas.
Ils annoncent qu'il y a eu une enquête. Clairement, il y a un dénouement qui s'est fait. Si il y a du monde qui a été fired.
Mais il n'y a personne qui a le droit de parler.
Mais ils sont capables de faire un statement pour dire ben voici.
L'enquête est réglée. Mais je pense que tant que ça ne sera pas réglé avec Punk, il n'y en aura pas.
Mais l'enquête est-tu réglée ou elle n'est pas réglée?
L'enquête, elle est complétée. Mais je pense qu'ils se mettront pas les pieds dans les plats en attendant que l'affaire de Punk se soit réglée. Parce que Punk pourrait réutiliser ça, lui, de son côté.
C'est à ça que ça sert de payer des avocats et des relationnistes de presse.
Je comprends. Parce que là, ils s'en vont à Chicago. Ils sont-tu à Chicago à soir?
À soir, man.
À soir, ils sont à Chicago. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va. Puis là, Kenny Omega qui s'en va dire « Ah, tu sais, les fans, à un moment donné, il faudrait que vous en reveniez. » Ben oui, mais tu peux pas faire ça dans BTE.
Non.
Puis après ça, dire, hey, les fans,
qu'est-ce qu'ils font?
Revenez-en.
Ils savent qu'est-ce qu'ils font.
Ben oui, mais ils savent ce qu'ils font, mais je trouve ça hypocrite. Je trouve ça hypocrite. Tu fais ça dans BTE, puis après ça, tu dis aux fans, mais là, on s'en revient à Chicago, là. Fait qu'on aimerait ça que les fans en reviennent. Ben oui, mais s'il y a des pros fans de CM Punk à Chicago, ils gêneront pas comme eux autres, ils se sont pas gênés. Parce qu'à un moment donné, ça finit quand, ça?
L'affaire, là, c'est que. Ben, c'est parce que moi, je pense qu'il veut juste créer un moment, là.
Mais tu veux créer un moment avec un gars qui reviendra pas. En fait, ça sert absolument
rien. Juste créer un moment de télé, le point, là. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir comment Chicago va réagir. Parce que peut-être que Chicago est complètement pas d'accord avec Punk, là.
Pense pas, moi. De ce que j'ai entendu des gens de Chicago, ça va être très, très, très pro-Punk. On va voir. Rapidement, les autres nouvelles. Kevin Owens, qui est revenu.
Ouais.
Notre Québécois qui est revenu vendredi dernier, donc qui va faire partie du 5 contre 5 War Games avec Sheamus, Drew McIntyre, Butch et Ridge Holland contre le Bloodline. J'ai bien aimé ses interactions et avec Sami et avec Roman Reigns. Il a quand même eu le dessus sur Roman à la fin, là. C'est pas rien. Donc, on le positionne quand même. Il a ouvert Raw lundi. Ouais. Donc, j'aime, au moins, on le ramène dans un gros rôle. On le ramène pas par la porte en arrière. Là. On le ramène en grand. Donc, ça, j'ai bien aimé. Jonah et AR Fox s'en iraient respectivement à la WWE et à AEW. En fait, Jonah qui était Branson Reed plutôt à la WWE aurait eu une offre de contrat de la WWE, de Triple H. Mais là, il faut qu'il décide, il veut-tu rester à New Japan ou il veut s'en aller
à la maison là,
ou il veut s'en aller à la WWE.
Tu sais, il y a eu un très bon G1. Il a battu Okada. Va-t'en avec ça, là. T'as battu Okada, là.
Oui, mais lui, il va vouloir une garantie qu'il s'en vienne sur le main roster.
Ah, non, mais c'est NXT. C'est sûr.
Tandis que AR Fox, qui est, entre autres, l'ancien premier champion d'Evolve, qui est à CZW, entre autres, également, qui a très bien fait avec Top Flight dans le match contre Death Triangle.
Donc, question, je suis comme, man, vous continuez à signer des gens, man?
Lui a eu une offre de contrat. Donc, il n'a pas encore accepté, ou en tout cas, c'est pas encore réglé, mais il y a eu une offre de contrat. Oui, il y a beaucoup de monde, ça on le sait. Un nouveau champion Impact, Trey Miguel, qui remporte le titre X-Division pour la deuxième fois. Il a battu Black Taurus, donc remplace...
Moi, j'ai adoré le angle de Bully Ray avec...
Avec Josh Alexander.
C'était du bonbon, là.
Genre, on savait qu'on s'en allait là, éventuellement.
Mais c'est comment qu'ils l'ont fait, là? J'ai tout aimé. Puis en plus, quand... Parce que le pour ceux qui n'ont pas vu l'angle, vous irez le voir. Là. Mais à un moment donné, il est attaché avec des tie wraps. Le tie wrap, il pète.
Mm-hmm.
Mais j'ai aimé comment les gars, on the fly, ils ont été capables de gérer cette situation-là. Parce que là, tu te dis, ben, le tie wrap, il est pété. Pourquoi Josh Alexander va pas défendre sa femme, tu sais?
Ouais.
Puis de la façon qu'ils l'ont fait, moi, là, je vais écouter le match juste à cause qu'il y a eu un bon angle.
Parfait. Conférence de presse dernièrement, la WWE a confirmé qu'elle ferait elle-même une conférence de presse après Survivor Series ce samedi. Donc, c'est sûr que c'est...
Ils vont faire une conférence de presse après Survivor Series?
Il y a un Media Scrum après Survivor Series. Il l'avait fait, Triple H l'avait fait à Toronto 2019. On était là à Toronto.
Ben, en tout cas, j'étais là, t'étais pas là toi.
Mais j'étais là, il en avait fait un après NXT. Ça va être intéressant. Là, il va la faire, ça va être live sur YouTube, TikTok et Facebook. Donc, puis j'ai hâte de voir comment, justement, on va vouloir la faire différemment, peut-être des AEW, mais c'est clairement influencé par les scrums de Tony, là.
C'est influencé par les scrums de New Japan.
Mais Tony n'a pas été influencé par les scrums de New Japan, ben oui, nécessairement.
100%.
Tony, ben,
100%.
Moi, j'ai déjà entendu que Tony a dit quelque chose comme quoi il voulait rendre... Il voulait faire des conférences de presse parce que lui, dans le sport, donc il était habitué avec le sport, ouais, ça se faisait des conférences de presse comme ça.
La façon que c'est fait... C'est
peut-être qu'il a adapté ça, mais l'idée originale venait pas nécessairement de New Japan. Puis je sais qu'à l'interne, on veut pas faire ça comme New Japan. À l'interne, là, moi, là, en tout cas, évidemment, il y a Tony puis il y a les PR. Mais moi, de ce que je comprends, c'est on veut vraiment rendre ça le plus court possible et le plus dirigé vers ce qu'on vient de voir le show. Ça vire pas en Q&A, comme je disais tantôt. Fait que voilà. Mais oui, la WWE va faire une conférence de presse après Survivor Series. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille!
Deux petites choses. Premièrement, NSPW, Bobby Fish ne sera pas là. On avait annoncé Bobby Fish pour samedi le 3 décembre. Ben finalement, il sera pas là et il va être remplacé par Stu Grayson.
Très cool.
Donc, ben oui, parce qu'il paraît que la vente de billets a augmenté depuis l'annonce de Stu. Et puis, bon, Bobby Fish, la raison qu'on me donne, c'est que il y avait un vol. Lui, il lutte en fait en Californie la veille. Et là, quand c'était le temps de parler du vol, ben, il y avait le seul vol. Il y avait deux vols, en fait, qui pouvaient l'amener à Québec. Il y en avait un qui fallait qu'il parte à 11h50 le soir, le vendredi. Puis il a dit, mais je peux pas le prendre. Le promoteur veut que je fasse la finale. Puis il paraît que l'aéroport était vraiment pas loin. Il y a eu des discussions, puis il dit, ouais, ben non, je pourrais pas. OK, ben, c'est tout d'abord. Parce que l'autre vol l'amenait à Québec à 8h le soir.
Ben, il aurait été correct pour lutter après.
Faut qu'il passe les douanes. Et Bobby Fish, on sait pas à quel point il est capable de passer les douanes facilement. Donc, voilà.
Pat, il drop des bombes de même.
Ouais.
Pour rien.
Ouais. Ben, ça me dérange pas. Il y a un DUI. C'est pas rien de majeur. Mais ça fait en sorte que ça se peut que le douanier te laisse pas passer.
Non.
Un DUI, là, c'est le douanier. Le douanier va dire oui ou non. Puis, ça aurait pu aider, mettons, que Bobby Fish ait une lettre qui dit qu'il n'aura pas à conduire rendu au Canada parce qu'il va se faire, tu sais, il va là juste pour un spectacle, quelqu'un va aller le mener, quelqu'un va aller le chercher.
Pourquoi il n'y a pas de lettre?
Parce qu'il y a comme, ah, tu sais, il laisse les choses aller, puis il paraît que la communication était pas super le fun. Fait qu'on pense que, bon, à un moment donné, il a peut-être juste dit, ah, regarde, ça me tente pas de le faire, ce booking. Okay. C'est de valeur. Mais en même temps, je suis pas super surpris. Et je trouve ça le fun que c'est le retour de Stu Grayson, un Québécois, qui a pas lutté depuis longtemps à la NSPW.
Bon.
L'autre nouvelle majeure, c'est que le même soir, donc le 3 décembre, on a appris l'adversaire de Jay White. Et l'adversaire de Jay White va être Zach Patterson.
Je peux même pas huer, man. Je peux même pas huer.
Pour vrai, hyper, hyper content pour Zach. Ça va être une super expérience pour lui. Non, tu sais, Zach est pas rendu au niveau de Jay White, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que Jay White va être capable Zach va être capable de suivre Jay White en masse. Puis ça va lui donner énormément d'expérience.
Un match
puis d'exposure. Exactement. Ça pourrait être vraiment. C'est un beau cadeau du temps des fêtes, je trouve, pour Zach. Il mérite. Il a connu une grosse année. Il met beaucoup d'efforts dans sa lutte. Et bon, lui, il va en faire un métier un jour. Là. Lui, ça a toujours été ça depuis le jour 1. Puis, vraiment capable. Content. Toi, tu vas être à cette île pendant ce temps-là. Je te dis ça de même. Moi, je vais être au show. Le Japon. Kenny Omega retourne à New Japan Pro Wrestling.
Yo, j'ai caca sur moi.
Wrestle Kingdom 17, le 4 janvier, il va affronter nul autre que Will Ospreay pour le titre des États-Unis de New Japan.
J'ai caca
C'est sûr.
J'ai caca sur moi.
En plus, t'es pas obligé de le chanter. Hein. C'est pas improvisation.
Caca sur moi. J'ai caca sur moi. C'est fou. Yo, j'ai vu la photo, j'ai crié.
T'as crié ou t'as fait caca, man?
Ah, j'ai caca sur moi. Oh my God.
Ah, je viens de reconnaître l'air. C'est comme une toune de Noël en faisant j'ai caca sur moi, c'est ça?
J'ai caca sur moi.
Ah, non, là, il a changé. Non, t'es vraiment pas un chanteur. Non.
Ah, c'était malade.
À qui s'est chanté sur Nouveau, Marco Estrada t'aurait pas trouvé.
Ah, il l'a fait, hein?
Il a gagné 12 000 piastres.
Pour vrai?
Le chien!
Il sait chanter, Marco Estrada?
Ben, je sais pas c'est quoi l'émission à Nouveau. Ça s'appelle « Qui sait chanter?
Ouais. » God damn!
Je pense qu'il faut qu'il gage l'argent sur qui chante. C'est comme un peu la réplique de l'émission
masqué.
De chanteur masqué, mais il y a pas de masque. En tout cas, je l'ai pas écouté encore, mais il a gagné 12 000 piastres.
Champion du monde.
Le champion du monde. Kairi a également remporté le premier titre féminin d'IWGP de New Japan, qui a battu Mayu Iwatani. Elle va affronter à Wrestle Kingdom Tam Nakano, qui est une des très, très bonnes lutteuses de Stardom. Et pour terminer, Carl Anderson va finalement défendre son titre Never Open Weight le 14 décembre prochain. Contre Iku Leo. Donc, on va finir par lui enlever parce que là aussi, en fait, Anderson et Gallo sont bookés. C'est le World Tag League, Super Junior Tag League à New Japan. Donc, Anderson va être là et il va dropper la belt, visiblement. Donc, ça va finir par se faire. New Japan l'avait dit, ça se ferait. Et ça s'est fait. Ou ça va se faire. Coup de cœur. J'ai adoré Sami Zayn, on va en faire, il y en a pas beaucoup vu qu'on a fait beaucoup Full Gear, mais j'ai adoré Sami Zayn à SmackDown qui dit « You see in the sky with diamonds ». T'as-tu compris le référent, toi, quand t'as entendu ça?
Non.
Non, tu sais pas c'est quoi « You see in the sky with diamonds »?
Non.
C'est une tune des Beatles. C'est Lucy in the sky with diamonds.
Bro.
Et là, il a fait « You see in the sky », c'était très clever. Ben oui, mais tu connais pas les Beatles?
Mais je connais les Beatles, mais ils ont traversé la rue.
Tu connais pas une tune des Beatles?
Ben oui, man.
Laquelle?
Imagine.
Hein?
Imagine.
Imagine, c'était pas les Beatles, c'est juste John Lennon.
Ben, es-tu dans les Beatles, John Lennon?
Ben, pas quand il a fait la tune, non.
Okay, ben,
c'est comme si tu me disais, genre, la tune Dancing, Sexy Back. Ben non, c'était okay, juste Justin.
Ben...
C'est un très bon exemple, ça, d'ailleurs.
C'est ce que je te dis.
Twist and Shout.
C'est Ibiton, ça?
OK. Pat Ney, aucune connaissance. Aucune connaissance musicale.
Oh, j'en ai plein, mais c'est les Beatles, quoi, là? Tu me parles de quoi, là? Parle-moi de Tupac, fuck.
T'es-tu en train vraiment de comparer Tupac avec les Beatles, là?
Ben alors, Tupac...
On n'aura pas cette discussion-là longtemps.
Non, ben, Tupac...
Tupac... J'adore mon hip-hop.
Si Tupac avait eu le push médiatique que les Beatles ont eu, Tupac
c'est
one of the greatest of all time.
De quoi tu parles? Tupac, il avait le câble, le stick, au moins, quand lui, il performait les Beatles, le stick. Il avait même pas la télé couleur.
Il jouait pas Tupac à la radio à chaque deux secondes.
Ben oui, mais bon. Ça, c'est le style musical, c'est
ben,
pas pareil.
C'est le style musical.
Les Beatles, ils sacraient pas à chaque deux lyrics
aussi.
Hey!
Hey!
Là, commence-moi pas, hey! Pas les Beatles, mettons, tu peux pas.
Tu peux pas, tu vas perdre
tout argument avec les Beatles.
Ben non, je parle pas argument, man, c'est le fact.
J'aime beaucoup que Matt Capmos et Emma... Ils font un angle, mais tu sais que dans la vraie vie,
ils sont ensemble.
Ils sont un couple. Alors, j'aime qu'au moins, tu sais, c'est logique, ça a l'allure. J'ai aimé
que Kevin, il salue Terry.
Il a salué Terry?
Oui, à Ross.
Ah oui, c'est vrai.
Ça m'a fait rire.
Oui, c'est vrai.
Il a dit, moi, je tournerai jamais sur mon père, le grand Terry. J'ai reculé juste pour être sûr.
T'as-tu d'autres tout le temps? Parce qu'on va passer aux avertissements. Ouais. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
OK. Non, non, non!
Bon, évidemment, si la personne voulait s'endormir avec le podcast, c'est fini, elle s'est réveillée.
Déjà, le partner, depuis qu'il est sur le main roster, c'est shit. Les promos sont shit. Le angle est shit.
Tu parles de Johnny Wrestling. Puis là, tu mets ton Hummus.
La seule affaire qui faisait du sens, c'était sa toune. Sa toune était chill! Vous avez changé la toune du patinet!
De quel patinet?
De Johnny Gargano!
Johnny Gargano, ouais. Ils ont
changé la toune du patinet! So, non seulement il a pris un pin contre Miz la semaine dernière, il est allé prendre un pin contre Omos!
Mais comment, genre, ton booking est de la merde quand t'es pogné à lutter contre Omos? Hey, Bray Wyatt, là, peut-être c'est pas une opinion populaire, là. Je commence à trouver ça long.
Ben, c'est long parce qu'il fait rien.
Ça fait un mois qu'il est revenu. Il a pas lutté, il a pas de clan, il est en semi-rivalité avec LA Knight qui le bitch slap deux fois. On sait pas s'ils vont s'affronter à Survivor Series ou pas. Honnêtement, je commence à perdre de l'intérêt. Là. Il était vraiment hot à son retour, puis tout ce qui a mené à son retour, puis on s'entend-tu qu'il est plus aussi hot un mois plus tard? Mm. Ça va peut-être revenir, mais là, je commence à trouver ça long. Et pourquoi on book Gunther comme quelqu'un qui a peur de Braun Strowman? Pourquoi Gunther, of all people, de tous ceux qui pourraient avoir peur de Strowman, tu choisis le gars qui est plus grand que lui? Voyons! Voyons! Paul! Come on, Paul!
You're right, Paul, t'es tellement chiant.
T'es capable de mieux que
semaine.
Ça. Paul est capable de mieux que ça.
Cette semaine, right, est difficile, guys. Oh. Au moins, Tozawa, c'est plus un ninja, là.
Ah, ouais.
Au moins. Mais là, le patron, il a vu Tozawa, il était omnibulé. Il a vu Tozawa. Sur le tous les patrons qui l'ont omnibulé, c'est Tozawa. Akira Tozawa.
Qui est un excellent lutteur, en plus. Qui a vu des classiques avec Kevin à PWG.
C'est pas mon problème, ça.
Non,
t'es Baron Corbin.
Je veux juste dire
tu vois Akira Tozawa, pis t'es omnibulé.
Omnibulé,
esti! Omnibulé! Omnibulé!
Ah oui!
T'as vu Akira?
Une des sœurs bulées, là?
Non!
Oui!
Yes!
Prédiction! Prédiction!
C'est le même thème que pour les Breaking News!
Ah non, t'es fatiguant. Hey, c'est ça, samedi, TD Garden, oui, de Boston Survivor Series War Games. On fait nos prédictions. Donc, Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim et une partenaire qu'on va découvrir vendredi.
Ben, sont mieux de le faire vendredi. Parce que s'ils le font dimanche puis c'est pas Sasha Banks,
c'est samedi,
les gens vont,
en fait.
Samedi, les gens vont shit sur le match.
Ah non, tu penses que c'est Sasha?
Non, mais s'ils le font, si...
Parce que c'est à Boston?
Ouais.
Parce que selon ce que Sean Ross Sapp a sorti, ça serait Becky Lynch. Ça serait le tour de Becky.
Ah, moi, je pensais que ça... Ah, ouais?
Ouais. C'est ce qui est correct. Si c'est Becky. À défaut d'être Sacha, si c'est Becky, c'est correct, là.
Non, mais si tu le fais à Boston samedi, puis que c'est pas Sacha, les gens seront pas contents.
Ben oui, parce que là, je pense qu'ils s'attendent à ce que ce soit Becky, vu qu'ils en ont. T'sais.
Non.
Ben, en tout cas, c'est sans. On verra.
Non.
Et elle va affronter Bayley, Io Sky, Dakota Kai, Nikki Cross et Rhea Ripley. Qui gagne ça?
Ben, le mystery partner, là.
Donc, les babyface.
Ouais.
Oui, je pense que ça va être les babyface.
Juste à cause qu'il y a un mystery partner. Là.
À moins qu'on fasse gagner Rhea sur Bianca pour ensuite builder un match de championnat.
Ouais.
Ça aurait pu. Tu sais, Rhea est quand même très over en ce moment.
J'avais juste ça quand les mystery partners arrivent et viennent prendre des pins.
Mais ça, c'est un War Games. Je suis pas sûr qu'elle est obligée de prendre un pin. Ça pourrait être facilement.
C'est un pin, point.
C'est-tu un pin?
Ouais, c'est un pin qui gagne.
Bon, fait qu'elle elle serait pas obligée de prendre un pin. Sinon, j'allais dire, ça peut être un genre de double DQ. Là, t'sais, bon.
Un peu de DQ, ça c'est War Games.
Ça va-tu le baillement?
Hey! Je mis à Londres, man.
Hein? Ben ouais, mais non.
J'ai le droit de bailler si je veux.
Ben oui, mais silencieusement.
Mais qui baille silencieusement?
Ben tout le monde qui
veut. Ben non, mais quand tu bailles, tu bailles, man.
Ben non, tu fermes ta bouche, tu
OK, mais comment tu veux bailler en fermant ta bouche?
T'as-tu déjà baillé la bouche fermée? Bon.
Qui a déjà baillé la bouche fermée?
Ben, plein, tout le monde!
Y'a personne qui baille la bouche fermée.
Fred et moi.
Comme ça.
Ben oui.
Ben non. Vous êtes des malades mentales.
OK, nous autres, on est malades mentales, mais toi, t'es pas capable de faire caca pis pipi en même temps.
Oh shit.
Hey, c'est nous autres les malades mentales. Parce que je sais pas si vous savez, là, à chaque fois qu'il dit qu'il fait caca, lui, il fait juste caca. Il peut pas faire un petit pipi en même temps qu'un caca. Mais tout le monde fait ça dans la vie, pipi pis caca en même temps. Je peux pas croire que j'ai dit pipi caca aussi souvent.
That's dirty.
Crime. Roman Reigns. Hey! M'a t'en replacé, moi! Yeah. Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn, le Bloodline, qui vont affronter Sheamus, Butch, Ridge Holland, Drew McIntyre, Kevin Owens.
Bah, donne ça à Kevin. Kevin va pin Sami.
Ou Sami va pin Kevin?
Non.
Mais il va arriver quelque chose. Je pense qu'on commence. On build quelque chose.
On build le WrestleMania thing, là, comme on part de là.
Exact.
Par contre. Moi, je pense qu'il va envoyer Kevin contre Roman à Royal Rumble.
Ben, à moins que, tu sais, comme on a déjà parlé, à moins qu'il par miracle, il enverrait Sami contre Roman à Mania. Mais sinon, je pense qu'il va envoyer Kevin et Sami contre les Usos.
Oui,
fait
mais.
Ça, faut qu'il commence.
Mais
là.
Roman mais contre Roman, Kevin à Rumble.
Ça se pourrait, ça.
Fait que Kevin pourrait pin Roman.
Ah, ça pourrait aussi.
Ben oui, c'est un war game.
Aussi. Ouais. Ronda Rousey va défendre son titre.
Ou Kevin pourrait pin Jay prend toutes les pins des deux Usos.
Jay est pas capable de faire.
Il peut plus faire de promo avec Sami.
Mais Sami arrive, il fait. Je pense que c'était pas prévu qu'il fasse son handshake avec Jimmy.
C'est
et
le
Jay a juste cassé.
Le plus sloppy que j'ai jamais vu.
Puis ils le font tellement, genre, naturellement.
Comme à chaque fois qu'ils se voient, les gars font ça.
Puis Jay, il est juste incapable.
Puis même Solo Sokai, là, il filme plus.
Non.
Il filme plus parce que c'est sûr que lui, il casse en deux à chaque fois.
Ronda Rousey va affronter Shotzi. Je pense que Ronda va garder ça.
Ah ben oui.
Et Seth Rollins va affronter Bobby Lashley et Austin Theory pour le titre des États-Unis. Tu redonnes ça à Austin Theory ou tu gardes sur 7?
Ben oui.
Tu gardes pas ça sur 7?
Non.
Moi, je pense que 7 va gagner.
À moins que 7 il pin Bobby, mais je ferais pas que.
Je comprends.
Je ferais pas que Austin prenne un pin en ce moment.
Je suis d'accord. AJ Styles va.
Et après ça, t'envoies Bobby contre Austin Theory.
Ça pourrait être ça. AJ Styles contre Finn Balor.
Finn.
Ouais, à ce moment-ci, Finn. Ouais. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques. Quelle a été, selon vous, indépendamment du résultat du match, la meilleure équipe de Survivor Series entre Team WWF en 2001, qui était Rock, Taker, Kane, Big Show et Jericho, ou Team DX en 2006, qui était Triple H, Shawn, Punk et les Hardy Boys?
C'est quoi la première équipe?
Rock, Taker, Kane, Big Show, Jericho.
OK, le gars pose vraiment la question, là.
Contre Triple H, Shawn, Punk et les Hardys.
Mais non. Les Hardys n'ont pas d'affaires, là. Puis après ça, c'est pas d'affaires dans la discussion, là. Là, tu me parles de Rock, Austin,
non,
Kane.
Non, ce n'est pas là. Rock, Taker, Kane, Big Show et Jericho.
Ben oui.
J'y vais avec Team WWE, moi aussi. Qu'est-ce qui vous tombe le plus sur les nerfs, Kevin? Entre... Qu'est-ce qui vous tombe le plus sur les nerfs? du duo JBL-Corbin entre la musique d'entrée de Corbin ou les bas de pantalon trop longs de JBL.
Après que Pat m'a disrespect, j'allais quitter le studio. Mais je voulais attendre.
Mais la question est bonne.
Mais la question est tellement bonne que j'ai oublié de répondre. Les bas de pantalon de JBL, là. Sacrament, là. Sac. On peut-tu appeler les boys de Glorious pour qu'ils fassent son bas de pantalon?
Wow! Hey, c'est déjà tout. Oubliez pas, en fin de semaine, si vous avez rien, venez voir au Salon du Livre.
Même si t'as quelque chose.
Mais même si t'as quelque chose, viens au Salon du Livre, puis va voir La Force, au moins un des deux matchs, à Verdun, samedi à 2h, à 14h, ou dimanche, à l'Arena Raymond Bourque, à 14h. Achetez mon livre sur Émile Butch Bouchard. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Je vais pas te manquer de respect. Oh, TPP. Pipi caca.